Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la 47e émission de Par le bout de la lorgnette, une émission spéciale livre sur les produits du terroir. Donc attention, ce ne sont pas des livres du terroir, mais sur les produits, avec Héloïse. Héloïse, non.
Salut.
Ah si, ça y est, tu as enfin avalé ton fromage papillon qu'a acheté Valérie au lieu d'acheter du Roquefort que son papa fait. Bonjour Valérie.
Bonjour Ludovic.
Ce n'est pas beau ce que tu fais Valérie. Moi non plus, j'avoue, mais... Toi particulièrement.
Je n'ai pas trouvé le vernière tant chéri par les membres de ma famille à proximité de la radio.
Bah écoute, n'essaye même pas d'aller fêter Noël avec tes parents, tu n'es plus invité.
Non, je sais, je suis en train de recevoir un message comme quoi j'étais déshéritée également.
C'est ça. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Et Popo c'est pareil, hein, elle nous ramène de la charcuterie, on s'est dit tiens, les beaux-parents, les beaux-parents.
Et non,
ça nous vient de Marseille.
De Marseille, d'un chouette salon de gastronomie et du vin où je me suis régalée, ça tombait bien, c'était en plein dans le thème.
Voilà, on va faire un peu de pub, tu nous as ramené aussi du vin, un petit rosé Sainte-Victoire. Côte de Provence 2016, qui est, ma foi, très bon.
Très agréable.
Hein, Valérie ?
Gouléant à souhait.
C'est cela.
Il a de la cuisse.
Bon, allez les filles, on se concentre un peu, on reste sérieuses. Comme toujours dans cette émission, on a beaucoup de livres chacun, que ce soit des bandes dessinées, des romans, des encyclopédies, un peu de tout. Donc, Héloïse, tu en as trois ou
oui.
deux
enfin,
Oui, trois.
Dont un dont je vais parler même pas une minute.
D'accord. Valérie, combien ?
Trois, dont un dont je vais parler même pas une minute.
D'accord. Popo ?
Deux.
Ouh. Et ouh. De, voilà, alors j'en ai trois, dont un, je vais parler... Non, je vais parler de tous. Bon, mais Héloïse, allez, tu commences. Tu es la chef de cette
Bim.
Émission.
Je commence. Donc, je vais commencer avec un gros coup de cœur. Ça s'appelle, c'est un livre qui s'appelle « La chambre à récits ». Le sous-titre, c'est « Passion, meurtre et fromage dans un village d'Espagne ». L'auteur, c'est Michael Paterniti, un auteur américain, un journaliste américain. Et c'est aux éditions Noir sur Blanc. Donc en fait, c'est pas un roman, c'est un documentaire, on va dire. C'est un vrai document parce que l'histoire est totalement vraie. Et donc, comme l'indique le titre, c'est l'histoire d'un fromage. Le fromage qui s'appelle le Páramo de Guzmán, qui est raconté donc par ce journaliste américain qui est tombé véritablement en amour de ce fromage sans jamais l'avoir goûté. C'est-à-dire que quand il était plus jeune, il avait un boulot d'été, il corrigeait les petites brèves, les petites annonces en fait pour une épicerie fine à New York. Et donc... L'auteur parlait de ce fromage de manière dithyrambique et du coup, depuis, ça l'a obsédé. Depuis ses 18 ans, il est obsédé par ce fromage. Il avait qu'une envie, c'est d'aller en Espagne, de rencontrer le producteur qui s'appelle Ambrosio. Et donc, enfin, un jour, il est allé à la rencontre d'Ambrosio, le fameux producteur du fromage. Et ça se passe donc en Castille, principalement. Voilà, donc Ambrosio, c'est vraiment un géant, il faut l'imaginer, c'est un géant castillan.
Comme moi.
Exactement.
Voilà un peu mon physique.
Tout à fait. Très volubile, qui adore parler, raconter des histoires, parler de son fromage, etc. C'est un personnage vraiment solaire, qui est très malicieux et qui est très attaché à son terroir, à sa terre natale et à la Castille, et qui en connaît, mais plein de choses sur son territoire. Donc c'est passionnant. Et donc voilà, le fil rouge du récit, donc c'est l'histoire d'Ambrosio qui un jour a décidé de créer ce fromage parce que son père lui parlait du fromage qu'il goûtait pendant son enfance, le fromage de famille, etc. et qui n'était plus produit en fait par la famille. Donc il décide, il aime beaucoup son père, de lui offrir la chance de goûter à nouveau ce fromage. Il se lance dans cette expérience avec une multitude de tests, de tentatives, jusqu'au jour où, finalement, au bout de quelques années quand même, il parvient à reconstituer le fromage familial.
Ça aurait pu être l'histoire de Valérie, si elle n'avait pas amené du papillon aujourd'hui.
C'est ça. Sauf que le roquefort existera toujours.
C'est vrai.
Et donc très vite, ce fromage magnifique est commercialisé. Il a un succès fou. Il va même devenir pendant un certain temps le fromage le plus cher du monde. Il est vendu chez Harrods, la reine d'Angleterre en commande, Enrique Iglesias. Enfin voilà, c'est un peu un fromage people. Et donc, voilà, donc c'est une belle aventure, un gros succès, on va dire, jusqu'au jour où Ambrosio se rend compte. Ambrosio n'est pas très bon en affaires. Il est très bon pour faire son fromage, mais en fait, il jette pas un œil sur les comptes de l'entreprise qu'il a créée, etc. Il a créé cette entreprise avec son meilleur ami. Et donc, il se rend compte un jour que son meilleur ami l'a roulé dans la farine et que son fromage ne lui appartient plus, ni même que son entreprise.
Aïe.
Voilà, il a signé des papiers. Il est un peu naïf, Ambrosio. Il a un côté un peu naïf. Donc, c'est aussi une histoire de vengeance, de fierté et d'honneur. J'ai du mal à dire que c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est tellement magique et un univers vraiment romanesque qu'on a du mal à croire que c'est vrai. Et donc, outre l'histoire du fromage, donc ce fil rouge dans le livre, c'est aussi l'histoire de la rencontre avec l'auteur, entre l'auteur américain et cet Espagnol qui le fascine totalement. Le plus souvent, ils se voient dans la chambre à récits, c'est le titre du livre. Donc la chambre à récits, c'est des petites grottes où les Castillans se retrouvent pour boire du vin, fumer, manger et raconter des histoires jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est un univers un peu refermé, un petit cocon assez merveilleux. Et donc, autour de l'histoire principale, gravite donc cette histoire d'une rencontre et des centaines d'histoires racontées par Ambrosio, par l'Américain. Vous arrivez à comprendre, vous comprenez?
Oui,
j'ai faim, j'ai très envie de goûter ce fromage dans une cave.
Mais c'est un peu, ce studio, c'est un peu une chambre à récits aussi.
Voilà. Et donc, il y a des contes, des anecdotes, des secrets, des blagues qui sont totalement indépendantes de l'histoire, mais qui font quand même partie de cette histoire globale de l'Espagne, de la Castille et l'histoire globale des hommes, en fait, de l'humanité. Et c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Et du coup, il y a beaucoup d'apartés. J'ai jamais vu des notes de bas de page aussi fournies. Des fois, elles font des pages entières.
Donc, ce livre, pour récapituler, c'était les récits entre cet auteur américain et Ambrosio qui nous raconte l'histoire que tu viens d'évoquer d'Ambrosio qui refait ce fromage, qui se fait flouer, etc. C'est sous forme de.
Donc, il y a l'histoire
de questions-réponses, de monologues.
Alors, non, c'est vraiment un récit. C'est écrit comme on pourrait écrire un roman. Il n'y a pas vraiment de dialogue ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des citations d'Ambrosio, mais ça. Voilà, c'est vraiment. Il y a des centaines, comme je vous disais, il y a des centaines d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, avec en fil rouge toujours cette histoire de fromage. Et est-ce qu'Ambrosio va se venger?
Est-ce qu'il va se venger? Oui, c'est ça qu'on veut savoir.
Voilà.
Tu ne peux pas le dire.
Mais non. Et donc, c'est, pour conclure, c'est un livre vraiment magique. Moi, j'ai adoré me perdre dans ce labyrinthe de récits, de notes de bas de page. C'est vraiment enchanteur. Ça donne envie de retrouver Ambrosio, de l'écouter pendant des heures, même si moi, je parle pas espagnol. Je suis sûre qu'on se comprendrait. De l'écouter. Et donc, quand j'ai fini ce livre, j'ai ressenti un peu comme un vide. En fait, c'était vraiment triste de quitter cet univers-là. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lire après ça? Donc, il a fallu que je fasse une petite pause pour me remettre de mes émotions.
À ce point-là.
Voilà. Ouais. Non, c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, c'est magnifique.
Et du coup, la rencontre entre Paternity et Ambrosio, elle a été à la hauteur de ses espérances? Parce qu'il devait l'idéaliser un petit peu.
Ça, c'est sûr, oui.
Est-ce qu'il a aimé son fromage?
Ah, mais en fait, le fromage, il n'existe plus. À partir du moment où Ambrosio n'était plus détenteur de son fromage, il a quitté l'entreprise, il a arrêté de le faire. Et donc,
il en avait bien un peu pour le faire goûter à cette.
Alors, l'entreprise continue d'en faire, mais ce n'est pas le même, évidemment, parce qu'il n'y a pas
la touche personnelle.
Après, Ambrosio en avait gardé quelques-uns sous le coude dans sa cave, en dessous de la chambre à récits. Et un jour, en fait, après, parce que l'Américain est allé s'installer pendant un an, quand même, avec toute sa famille dans son petit village. En Castille, à Guzman. Et donc, le jour du départ, il a eu droit à un petit morceau du dernier fromage.
Est-ce qu'il a aimé?
Magnifique. Mais après aussi, il disait, il savait pas s'il était objectif ou pas.
Elle est papillonnette.
Parce que ça fait partie d'une ambiance, ça fait partie aussi de plein de choses, en fait, le
D'accord.
goût.
Voilà.
Mais c'est ça le terroir, c'est ça qui est chouette aussi dans le terroir, c'est que tout. Il n'y a pas que ce que tu manges ou que ce que tu bois, il y a toute l'ambiance qui va avec.
Tout à fait.
Très bien, tu nous rappelles auteur, titre, maison d'édition, s'il te plaît.
La Chambre à récits, Michael Paternity, édition noir sur blanc.
Merci. Tu parlais de meurtre dans ton livre. Oui. C'est de la pacienta que t'as ramené, Pauline.
Comment tu dis?
Pacienta.
Pacienta.
Moi,
pacienta.
Je dis du roulé au poivre.
Mais... Du roulé au poivre.
C'est
voilà.
Ma classe.
Très, très, très fort. Ça pique beaucoup. Valérie, oui. C'est à toi.
C'est vrai. Alors, on reste dans le fromage, si vous voulez.
Oui.
C'est toi qui décide.
Et qui d'autre que les Français font du très bon fromage?
Les Espagnols.
Non, les Français.
Les Hollandais. Les Suisses.
Soyons chauvins. Alors moi, c'est pareil. Alors, on commence vraiment très, très fort avec Héloïse parce que si je ne devais avoir qu'une seule BD dans ma bibliothèque, je pense que ce serait celle-là. Et si je devais avoir une deuxième BD dans ma bibliothèque, ben, ce serait celle qu'il a écrit juste avant.
Non, mais dès qu'on parle de fromage, de charcuterie ou de vin, les filles, prend le pas sur tout le reste.
Hein. C'est que c'est bien fait. Ouais. Voilà. Donc c'est très très bien fait. Donc là, dans cette BD qui s'appelle Chronique de la fruitière, Voyage au pays du comté, on part avec Fred, donc Fred Bernard, qui est l'auteur, au cœur du Jura et de ses montagnes, au rythme des saisons, où est fabriqué ce merveilleux fromage que, évidemment, tous les Français ont eu un jour ou l'autre sur leur table. Est-ce que vous savez pourquoi certains fromages ont des trous? Est-ce que vous savez ce qui fait qu'un comté il est certifié AOC ou pas? De quelle vache provient le lait dont il est issu?
La Montbéliard.
Ouais, mais Fred Bernard, tout ça, il ne le savait pas, lui. Donc, du coup, il en a fait un livre et c'est merveilleux, une BD super. Donc Fred Bernard, à la base, quand même, il est curieux de nature, il est amateur de bonnes choses, sachant qu'il avait écrit déjà les chroniques de la vigne, donc on se doute que c'est quelqu'un de bien, forcément. Là, donc c'est assez rigolo parce que dès les premières pages, en fait, on n'est pas directement au pays du comté. On est à Paris, dans un restaurant, et on le voit de face. Il s'est dessiné de face et on voit le dos de son éditeur. Sur la chaise, il est marqué « Mon éditeur ». Et l'éditeur lui dit « Bon, écoute, ça a super bien marché, ta BD sur les chroniques de la vigne. Est-ce que tu pourrais pas nous en faire une sur les chroniques du comté ?» Il dit « Attends, on parlait d'un seul fromage pendant tout un livre, c'est peut-être compliqué. » Mais il relève le défi parce qu'il a l'ombre de son grand-père qui était de la région qui vient derrière lui dessiner en lui disant « Allez, vas-y, fais-le, quand même, t'adores ce fromage. » Et donc voilà, c'est parti. Donc Fred Bernard monte dans sa capsule magique et se télétransporte au pays du comté. Donc on arrive au printemps. Et c'est une accumulation de tout ce qui fait la fabrication du comté, que ce soit on va aller chez un producteur, on va faire une tournée de ramassage de lait avec une dame qui est ramasseuse de lait, donc qui conduit le gros camion hiver comme été pour ramasser le lait. On va dans les fruitières, c'est bourré de petits détails, il y a énormément de petits dessins sur la nature, sur le fromage. Évidemment, il y a des dégustations terribles avec du vin. Enfin, c'est même inhumain de me faire repenser à ce livre à l'heure du repas.
Et du coup, qu'est-ce qu'une fruitière?
C'est le lieu où le comté va prendre sa maturation.
D'accord, voilà. Mais ça vient d'où ce nom, tu le sais?
Je l'ai peut-être.
Mais bien sûr, elle s'est renseignée.
Bien sûr, non, je n'en ai aucune idée. C'est peut-être écrit dans le livre, mais je ne me rappelle pas. Voilà, après tu apprends tout sur le comté, de A à Z, en fait, vraiment tout est indiqué dans le livre et c'est fait avec énormément d'humour. Il y a plein de petites touches, des petites anecdotes, et ce sont des vraies personnes qu'il a rencontrées.
Et c'est classé par saison.
Voilà, et c'est vrai que tout au départ, quand j'ai ouvert le livre, ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu le titre de la première saison, ça semblait un peu lourdingue. Et en fait, non, c'est très bien documenté, mais c'est fait de façon un peu légère. Donc, c'est super. Enfin, ça donne vraiment envie d'y aller. Ça donne envie de rencontrer les producteurs. Ça voue un respect incroyable à ce fromage. Enfin, on a vraiment envie d'en déguster. On comprend plein de choses et et le dessin est super, les écritures aussi, c'est vraiment un 20 sur 20.
Voilà, c'est découpé par saison et c'est plein de petites chroniques par saison, donc ça peut être des bandes dessinées d'une seule page, de 2, 3, 4 pages, etc., sur les thèmes.
À un moment, par exemple, je crois que c'est sur l'été, il y a 2 pages, c'est que les fleurs et les plantes qu'on trouve dans une prairie.
Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est un livre qui pourrait servir de guide. On pourrait le prendre avec soi et aller au pays du comté et rencontrer. Parce que j'imagine que les noms qui sont cités sont
les vraies personnes. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment des. Voilà, puis tu vois aussi, il relève aussi les problématiques des agriculteurs, hein, qui est un peu partout. Enfin, c'est vraiment un livre parfait. Enfin, pour moi, c'est la perfection en termes de BD. On est entre le documentaire, l'histoire, il y a de l'humour, mais c'est très sérieux. Enfin, puis embarquer des lecteurs sur un seul sujet, qui est quand même un seul fromage... C'est quand même un exploit.
Oui, c'est fort parce que c'est vrai qu'il avait fait les vignes avant, le vin, mais c'est quand même plus vignes, global. Il y a plein de choses à dire. Alors que là, c'est vrai que sur un fromage, une région, c'est fort, je trouve.
Ouais, ouais. Puis il décrit, je sais pas, les gens qu'il rencontre, il les.
Les sublimes.
Ouais, puis ils sont eux-mêmes. Hein, il n'est pas dans l'exagération, mais ils sont. Voilà, tu as le paysan, tu as le jeune qui est revenu au pays, que personne ne comprend pourquoi est-ce qu'il revient. Enfin, c'est.
Plein de clichés, quoi.
Ouais, mais c'est beau.
Mais dis pas ouais. C'est pas plein de clichés.
Mais oui, mais c'est la vie, quoi. Enfin, c'est des vraies choses, c'est des vrais gens et c'est superbe.
C'est la vie.
C'est ça.
C'est ça. Ok, voilà. Super ouais, à ce point-là. Très bien, redis-nous.
Alors, c'est Chronique de la fruitière, voyage au pays du comté, et donc c'est chez Glénat.
Merci Valérie.
Avec
Merci.
Plaisir.
Alors, si je ne devais garder qu'une seule bande dessinée dans ma bibliothèque, ça ne serait pas celle-là. Ça serait les Schtroumpfs contre le Krakoukas, ce qui vous donne mon niveau de connaissance de la bande dessinée. Là, en tout cas, je vais vous parler de Frères de terroir de Jacques Ferrandez et Yves Combdebord, carnet de croqueur numéro 2. Yves Combdebord, ce chef cuistot.
On le connaît bien, oui. Qu'on a connu. Du Sud-Ouest.
Voilà, dans jury de Masterchef, etc., etc. Et donc c'est le carnet de croqueur numéro 2, car il y en a eu un en 2014 qui était carnet de croqueur numéro 1. Une bande dessinée qui retrace donc ce deuxième tome, la suite du premier. L'auteur de bande dessinée a suivi le chef à la rencontre des artisans, des producteurs, des éleveurs, des vignerons, des boulangers, des fromagers, des maraîchers, en d'autres termes tous les fournisseurs de son restaurant, dans ce nouveau tome qui est dévolu à l'été et à l'automne, respect du produit oblige. Et donc, on commence en Corse avec un apiculteur pour ensuite aller pêcher l'anémone de mer. Une petite pause avec une recette d'encorné de la baie de Saint-Florent, vinaigrette de cédrat corse et miel d'arbousier. Puis on reste en Corse rencontrer un vigneron pour partir ensuite dans les Pyrénées manger du veau, goûter un fromage. Donc avec à chaque fois l'histoire du producteur, ses anecdotes, sa façon de travailler, ses produits, voire ses coups de gueule contre une certaine agriculture intensive qui ne travaille pas ses produits, jusqu'à une nouvelle recette de ce chef étoilé. Donc c'est très très bien de mettre en lumière, comme il le fait... les gens qu'on voit pas forcément, voilà, ces petits producteurs qui font des super produits. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. J'ai pas trop aimé le dessin de Jacques Ferrandez, qui est un peu un dessin comment
pour le. C'est très classique, en fait, c'est de l'aquarelle, il me semble.
Oui. Voilà, c'est ça. C'est une année de rencontre donc avec ses producteurs favoris. C'est une belle peinture de savoir-faire, de convivialité et de mettre donc, comme je viens de le dire, ses producteurs sur le devant de la scène. Voilà. Donc, si vous aimez la cuisine, si vous connaissez Yves Combdebord, que ça vous intéresse, oui, n'hésitez pas à aller l'acheter, voire acheter le premier. C'est toujours intéressant. Après, moi, je suis pas très bande dessinée, donc là, suivre un chef restaurateur.
Voilà. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, j'imagine que ça constitue un vrai voyage culinaire aussi.
C'est ça, à la découverte de différentes...
Du terroir. Il y a les recettes d'Yves Combdebord ou pas? Ou il y a juste le plat et l'intitulé?
Non, il y a les recettes, voilà, de temps en temps. Pas obligatoirement quand on change de région, mais hop, il fait une pause et donc il donne une recette. Pas forcément en lien avec les producteurs qui ont été montrés avant, ben aussi, là, ce que je viens de vous dire, l'encorné de la baie. Alors, ils chassent des anémones de mer, pas des encornés.
Et oui, qu'est-ce qu'on fait avec des anémones de mer? Ça se mange?
Eh bien, écoute,
c'est des bouquets, moi.
Peut-être qu'il les fait frire.
Non, ça se mange. Ah bon. Mais je sais pas. Alors, pour préparer les anémones de mer, on les trempe dans la pâte à beignets, on les fait frire. C'est super bon, très iodé. Tu peux me demander si tu veux. Vas-y.
Héloïse aussi.
Voilà.
Non, après, c'est vrai que pour ceux qui aiment la gastronomie, je pense que ça constitue quelque chose d'intéressant.
Voilà, et donc, il y a cette recette. Et en plus, il nous rajoute un menu d'un de ces restaurants qu'il avait. Donc, avec quoi on peut, dans quel menu global on peut insérer la recette qu'il vient nous montrer. Il a été désigné par les journalistes, un peu ce chef cuisinier, comme le chef de la cuisine de bistrot, qu'on appelle la bistronomie.
Oui.
Voilà, là, il vient de signer un contrat, ça s'est arrêté avec Air France pour faire les menus des classes, des premières.
C'est
des
une
premières
bonne
classes,
idée, je trouve.
Etc., etc.
Et il a un restaurant, ce monsieur ? Parce que je découvre.
Oui, il a plusieurs restaurants. Il en a un dans le sud-ouest, au Pays Basque, je crois. D'accord. Et un autre, il a quelques bistrots à Paris aussi.
Voilà, mais souvent, il les revend et il repart sur d'autres aventures et essaye de reprendre des bistrots qui ne marchent pas. C'est un peu un homme de défi, quand même.
Mais c'est le principe de l'émission, non ? C'est ça ? C'est de racheter des bistrots ?
Non.
On regarde Top Chef, non, on ne regarde pas Masterchef, on ne sait pas.
Non, Masterchef, c'est des amateurs qui entrent en compétition sur certains thèmes culinaires, mais non, il y a
Rien à voir. Voilà, donc c'était, j'ai pas dit, c'est la maison d'édition rue de Sèvres. Frère de terroir, carnet de croqueur numéro 2. Popo.
Alors Popo, elle est méga inspirée depuis qu'elle nous a fait le salon du terroir, du vin, du bien manger et du Saint-Doux à Marseille.
Et de l'absinthe. Elle a plein de trucs.
C'est pour ça que t'es aveugle.
Ça rend pas aveugle.
Si, ça rend aveugle. Ah bon ? Aveugle et fou ?
Je vois bien, moi, pourtant.
T'en bois pas assez.
Et très joyeux. Ouais.
Et pourquoi chaque fois on pourrit le début des chroniques de Popo ? Parce que je suis facilement déstabilisée, c'est plus drôle.
Ouais, mais je te laisse pas faire.
Alors, du coup, on parlait d'un cuisinier. Moi, je vais vous parler des Illustres de la table. C'est un livre de Benoît Sima et Mathieu. J'ai tellement mal écrit que j'arrive plus à lire.
Ah, c'est bien
Mathieu
préparé.
Mathieu Burnia.
Ah, pour aller au salon, là, on est la première, pour préparer ces émissions.
T'as la vue qui commence à... Moi, je dis c'est l'absinthe.
C'est l'absinthe.
Donc voilà, là, on est dans un bouquin qui fait le portrait de gens qui ont gravité autour des arts de la table. Alors évidemment, de cuisiniers, de personnes gourmandes, de pâtissiers, même des médecins, des critiques, voilà. Vraiment des gens qui ont porté l'art de manger, l'art de cuisiner dans leur vie à différents moments et donc qui ont marqué de tout leur talent la table. Donc ça commence il y a 2000 ans avec des poètes grecs qui déjà parlent de gastronomie, qui parlent de bonne nourriture jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a une trentaine de portraits, on a des noms connus Patel, voilà, merci.
Tu as le droit à un appel à un ami.
J'ai mis connu 2 points, rien du tout. Et donc des moins connus, comme ces Grecs, moi j'aurais jamais imaginé que des poètes grecs traitaient de nourriture dans leur traité. Donc on a par exemple Archestrate, qui est un des premiers gourmets érudit de l'histoire et qui est le premier à utiliser le mot. Je suis dans les moins connus.
Oui, cogito est orchestratum.
Qui est un des premiers à utiliser le mot gastronomie.
Mais non, parce qu'il est moins connu, puis il a dit le fameux orchestrate.
Qui n'est pas connu, pardon, voilà, autant
pour moi. Pardon, mais c'est un chouette nom. Vous
voulez faire de l'humour.
C'est très bien. Mais t'imagines bien une orgie grecque de bouffe. Moi j'imagine très bien à cette époque-là de. Les gens autour d'une table.
On imagine l'orgie, mais pas la finesse du repas.
On imagine bien l'orgie, ouais.
Je crois qu'il faut qu'on arrête de suite à l'absinthe. On n'arrivera pas à finir la chronique.
Bon, bref, pour chacun de ces personnages, de ces illustres de la table, on a d'abord un petit texte de présentation et à la suite de ça, une petite BD, en fait, soit qui va nous montrer son apport à la gastronomie, soit une petite anecdote, soit une recette. On a aussi, par exemple, alors pour Maïté, qui est évidemment une illustre de la table, tout un épisode recréé en BD et un peu exagéré, puisqu'à la fin, elle se retrouve bourrée de gras, bourrée de...
Ça, bourrée de gras, ça vient de la fois où elle mangeait les ortolans. Je pense que c'est la vidéo la plus érotique que je n'ai jamais vue de ma vie. Maïté mangeait un ortolan.
Mais c'est interdit.
Oui, mais à l'époque, c'était autorisé.
Ouais, et là, je crois qu'elle fait un coup de canard. Là.
Un coup de canard, parce que l'ortolan, il est gras et tu le suces par l'arrière, en fait.
Tu vas arrêter,
en mettant du gras partout sur ton petit frotte.
C'était il y a 2 semaines.
C'est incroyable.
Mais c'est Mitterrand
Maïté, elle n'arrête pas. Maïté, mais c'est... Regardez cette vidéo de Maïté mangeant un ortolan, c'est à côté. Emmanuel, c'est...
Ça reste Maïté quand même. Hein,
ouais, mais elle était jeune. Attends, c'était Maïté, je pense qu'il y a la vidéo est de 75-80, tu vois. Donc,
d'accord. Tu m'as fait peur.
Voilà. Donc,
je peux repartir.
Tu peux repartir.
Bon, du coup, c'était plutôt sympa parce qu'on découvre des petites choses qu'on connaissait pas. Moi, j'ai toujours entendu parler de la mère Poulard du Mont-Saint-Michel étant de Bretagne. Et finalement, je connaissais pas trop son histoire. Donc, c'était sympathique. On découvre des petites anecdotes. Mais je suis un peu restée sur ma faim parfois. Après, j'ai souri dans les BD. Il y a de bons moments. C'est assez rigolo. Donc, c'est assez sympa pour découvrir un peu tous ces grands personnages. Alors après, vous allez me dire, le terroir, il est où là-dedans? Bon, il est évidemment dans Maïté, hein, quand même, dans le cassoulet de Castelnaudary, il est dans tout plein de choses, mais il est aussi finalement dans les illustres du futur. En fait, à la fin, il consacre une petite partie aux illustres de la table du futur, ces gens qu'on ne connaît pas encore ou peu, et qui finalement, eux, sont sur beaucoup sur un retour à la terre, un retour au terroir, au goût de la terre. Et c'est là, finalement, on a cette idée du terroir un peu ancien. Et en fait, c'est quelque chose qui, je trouve, qui revient, et on le voit très bien dans ce bouquin-là. C'est qu'on retourne vraiment aux traditions, au local, parce que pour le goût, pour le principe, pour plein de choses. Et donc le terroir, il est là. Je pense qu'il est, il est aussi dans l'avenir. Il revient.
Ça se réinvente. Ouais. C'est pas fait pour rester fixe.
Donc voilà.
Le terroir est aussi dans l'avenir. Très belle phrase, Popo. Merci. Allez, rappelle-nous. On va faire une petite pause pour nous aussi pouvoir manger un petit coup et boire un petit coup.
Alors les illustres. Ah, tu voulais y aller ?
Non. J'allais dire. Moi, je veux plus d'absinthe. C'est bon.
Oui, on arrête l'absinthe, par contre. Alors les illustres.
Les illustres de la table. Benoît Sima et Mathieu Burnia. Et c'est chez Dargaud.
Allez, quelle pause musicale, Héloïse ?
Alors c'est une chanson qui s'appelle Green Onion. Je suis sûre que vous la connaissez, mais que vous ne connaissez pas son titre, peut-être. Et donc, c'est pas par rapport du tout aux oignons, finalement. C'est pas un hommage aux oignons. C'est un hommage au chat du guitariste qui s'est inspiré de la démarche de son chat pour le riff de guitare. Et son chat s'appelait Green Onion.
Allez, c'est parti.
Thank you. dégustation de l'ortolan. Et encore, il y en a qui sont bien plus forts que moi pour les déguster, ça j'en suis sûre. Parce que moi, j'en mange pas assez souvent quand même.
Allez, merci Valérie.
C'est l'ortolan.
Voilà.
Mais Maïté, elle est toujours vivante ?
Je pense, oui.
Par contre, l'ortolan, non.
Non, l'ortolan, non.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est...
Allez, Valérie, tiens, tu poursuis.
C'est vrai, mais j'ai... Ouais. Attends, il faut que j'attrape le livre. Attends, je vais sous la table.
Bon, alors, Héloïse, à toi.
Alors, j'ai parlé d'un petit livre qui vient de sortir chez Actes Sud, qui s'appelle « L'homme qui écoute les légumes ». L'auteur est donc le fameux jardinier qui écoute les légumes. C'est une même personne et il s'appelle Asafumi Yamashita. C'est un japonais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Il a été assez médiatisé il y a quelques temps parce qu'il vend ses légumes à de grands chefs étoilés.
J'ai vu un reportage.
Voilà, il a une certaine philosophie, effectivement, du potager. Et donc, c'est très intéressant. Et donc là, c'est un livre, en fait, qui vient de sortir, qui explique un petit peu son parcours de vie, comment il...
Il est en France, hein.
Oui,
il
est dans les Yvelines, dans un petit village des Yvelines. Il a 2 hectares de terrain, ce qui n'est pas énorme pour un agriculteur. Mmh. Et donc, voilà, il nous raconte en fait comment il en est arrivé à faire son potager et comment en fait il cultive ces fameux légumes qui sont très réputés, qui sont réputés pour être excellents, pour pas être parfaitement calibrés ou quoi que ce soit, mais pour vraiment avoir un goût exceptionnel. Donc en fait, ce monsieur... jusqu'à ses 40 ans, il n'avait jamais rien cultivé, ni de légumes, ni de fruits. Il a été instructeur de golf, il a fait plusieurs métiers, mais rien à voir avec l'agriculture. Et lorsqu'il a 40 ans, il achète ce petit terrain dans son village et il décide en fait de commencer à planter des légumes japonais. Et donc c'est le début du voyage et ça fait 20 ans en fait qu'il fait ça. Et donc... je vais vous dire en fait les premiers mots. Et c'est un monsieur qui écrit très bien. Il y a une grande poésie dans toute sa pensée, dans son métier et donc dans son écriture également. Le voyage qui présente le plus d'attrait à mes yeux est le voyage en solitaire, celui qui offre l'occasion d'une redécouverte de soi-même. L'agriculture, par laquelle j'exerce toutes sortes de tâches au fil des saisons, correspond à un moment où, par l'intermédiaire de mes légumes, je me retrouve face à moi-même et m'offre l'opportunité de redécouvrir ce que je suis vraiment. En d'autres termes, chaque jour est pour moi l'occasion d'un voyage immobile et sans fin.
Très beau.
Donc oui, c'est un monsieur qui écrit magnifiquement bien. Donc c'est un autodidacte, on l'a dit. Il a toutes sortes de théories en fait qui sont assez inédite, parce que c'est vrai qu'il s'est forgé lui-même son expérience, et c'est vrai qu'il a lu quelques livres, etc., pour faire son potager, mais il a développé des théories assez chouettes, c'est-à-dire que, par exemple, lui, il peut travailler qu'en musique. Il dit que quand on travaille en musique et en rythme, eh ben, les légumes poussent mieux, parce qu'ils adoptent le rythme, etc., que tu prends en travaillant. Aussi une théorie pour la terre, c'est-à-dire que c'est vrai que les agriculteurs ont tendance à nourrir la terre, à l'enrichir d'engrais ou de fumier, etc. Lui, il dit, la terre est comme ça depuis le début de l'humanité, elle a eu le temps de se nourrir par elle-même, elle a eu plein d'histoires, et l'homme n'est là que depuis quelques millions d'années. Alors, il n'est pas forcément pour enrichir la terre de fumier, etc. Ce livre est d'une grande beauté, vraiment. Moi, Je l'ai dévoré. On plonge dans une petite bulle, dans un petit univers à part, qui fait vraiment du bien. Et voilà. Donc c'est un livre où il y a les textes, où il parle en fait de son expérience aussi. Il parle de ses légumes en particulier, de ses carottes, de ses concombres. Enfin, il parle comme si c'était des humains, ses enfants, quoi, vraiment. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle la séparation, c'est-à-dire que quand il les extrait de terre et qu'il doit finalement les vendre et que c'est assez dur pour lui. Voilà. Et il y a des photos. Il y a des très belles photos de lui dans son jardin, de sa fille dans son jardin, des légumes tout simplement, de la germination, des différentes étapes.
Il donne des conseils ou en fait il raconte simplement son histoire
fait, lui, il est autodidacte et il est pour en fait qu'on apprenne par soi-même au fur et à mesure des expériences, etc. Après, oui, on peut prendre ça comme conseil, mais c'est vrai qu'il a un mode de culture particulier. Je sais pas si tous les...
Est-ce qu'il parle de ses graines aussi, où c'est qu'il avait récupéré ?
Alors, les graines, il les achète au Japon.
D'accord.
Voilà, des graines ou des plants. Il les fait venir du Japon.
C'est ça qu'il faut qu'on fasse, Valérie.
Non, on ira chez Cocopédis, un peu moins loin.
On fait un jardin avec Valérie.
Je vais vous lire juste là, du coup, le...
Non, mais pas de fumier non plus, mais rien, non.
C'est vrai ?
Ouais, que de l'argile.
Non, mais c'est particulier, effectivement, mais c'est d'une grande beauté et d'une grande originalité aussi. Je vais juste vous lire le début de la séparation, donc au moment où il récolte ses légumes. Donc la séparation fait partie inhérente du travail de l'agriculteur. Au préalable, il laboure la terre, aménage ses billons, sème les graines, les fait pousser, puis, le moment venu, fait sa récolte et s'en sépare. Lorsque je me sépare de mes légumes, j'assimile cet acte au départ d'une de mes filles pour son mariage. Si elle est précoce, je la confierai rapidement. Si elle fait preuve d'une maturité plus tardive, j'attendrai tranquillement le moment opportun en espérant qu'il sera encore temps. Quel que soit le rythme de croissance de chacune de mes filles, je veille à ce qu'elles ne tombent pas malades et à ce qu'aucune mauvaise influence ne vienne les perturber pendant leur croissance. Mais mon vœu le plus cher est qu'elles aient bon cœur. Alors je vois que vous secouez
n'importe
la tête,
quoi.
Etc. N'importe quoi, c'est quoi ce perché, mais je trouve qu'il a une philosophie vraiment qui fait du bien, une philosophie de vie. Et...
Moi j'ai eu des radis, quand je les ai enlevés de terre, je pleurais. Les radis, c'était la fin.
Il paraît que effectivement voilà que ça porte ses fruits aussi apparemment d'aimer ses légumes parce qu'ils sont magnifiques.
Il les vend pas n'importe qui mais au-delà même de grands chefs, il les vend à des personnes. Voilà, il veut connaître les personnes, discuter avec eux. J'avais vu un reportage sur lui qui était très touchant où c'était justement un grand chef qui disait venez voir mon producteur. Alors il voulait pas trop passer à la télé, y être vu, et donc il racontait qu'il pouvait le vendre à des grands chefs ou à d'autres.
À partir du moment où il y a quelque chose
qui passe entre eux. Oui.
Mais par exemple voilà il y a une plante qu'il cultive qui s'appelle le melon musqué. Il a 10 plants, il a 10 fruits à la fin chaque année. Et voilà, c'est tout. Il en prend soin, mais comme de la perle de ses yeux, comme vous l'avez vu. Et du coup, il y a 10 melons au final et qui sont remplis d'amour et de sagesse, je pense. Mmh. Ça fait beaucoup. Voilà.
Merci Héloïse, super. Très bien, mais tu parles de ce melon qui est un peu méconnu. Est-ce que tu connais le coq d'Inde ? Est-ce
non.
que tu as déjà mangé du coq d'Inde ? Car c'est le dindon. Le coq d'Inde, quand il est apparu en France, on a nommé ça le dindon. Mais c'était du coq qui venait d'Inde. D'où le livre que je vais vous présenter. Excellent livre. Merci beaucoup, Héloïse Finiels, de m'avoir fait découvrir ce livre. Qui est là, en fait, une toute petite partie d'un livre, un des plus grands livres sur la gastronomie française. Connu de tous les temps, l'influence financière du dindon, c'est l'extrait de La physiologie du goût ou méditation de gastronomie transcendante de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, publié en 1825, quelques mois avant sa mort. Donc l'influence financière du dindon, c'est un tout petit ouvrage d'une soixantaine de pages, très petit format, qui est tiré de La physiologie du goût. C'est vraiment succulent. Alors le succès à la sortie de ce livre, oui, bravo Valérie de mettre du vin sur le livre qu'Héloïse nous prête.
Non mais tu plaisantes, hein.
Laisse-moi finir, s'il te plaît.
J'ai des vidéos.
Non, pas du tout. Alors, à la sortie de La physiologie du goût, le succès dépassa toute attente. À peine le livre sorti, qu'on le plaçait à côté des Maximes de La Rochefoucauld, des Caractères de la Bruyère. Livre divin, écrivait le critique Hoffmann, qui apportait l'art de manger, le flambeau du génie, et Balzac lui-même de ratifier ce jugement dans son préambule à la deuxième édition charpentier de l'ouvrage.
Tu peux nous dire en quelle année c'est sorti ?
Je viens de le dire, en 1825.
Non, mais c'est ce qui me semble fou, c'est vieux.
C'est super vieux, mais en fait, l'écriture est extrêmement contemporaine. Alors, je ne sais pas si ça a été réécrit. Je sais qu'il est ressorti en 1845, donc préfacé par Balzac. Je ne sais pas si depuis ils l'ont écrit, mais c'est pas...
Non, mais c'est toujours le texte original. Hein. On change les préfaces, mais on n'a jamais changé le texte, je pense.
Voilà, il n'y a pas de mots compliqués. On comprend absolument tout. Alors, en fait, c'est au travers de réflexions qui sont originales et modernes pour l'époque, mais même encore aujourd'hui. L'auteur nous fait découvrir la variété des aliments qui composent la nourriture française, donc pour le dindon, je parle, pas pour le livre en général, le poisson, la truffe, le sucre, le café ou le dindon. Donc pour lui, un volatile peu étudié et trop souvent maîtrisé, le dindon, qui trouve...
Méprisé,
pardon. Le Danon qui trouve en Bria Savarin un défenseur. Alors c'est extrêmement drôle, c'est essentiel, c'est philosophique. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il nous raconte quand quand le Dindon est arrivé en France, quand il est arrivé sur la table des restaurateurs. Donc c'est aussi historique, ethnographique. Il nous raconte comment il allait chasser le dindon sauvage dans le Connecticut et qu'il allait chasser en même temps des écureuils. Voilà, il nous montre en gros que la gastronomie, c'est un point essentiel de la construction de la culture française. Et donc, c'est un tout, en fait. Voilà, on nous parle de l'histoire française à travers la gastronomie, on nous parle de l'ethnographie, on nous raconte des anecdotes croustillantes. Alors, cet homme était avocat, il a été député du tiers-État, il a dû partir au moment de Robespierre, je pense, parce qu'il allait se faire défoncer, donc il est parti au Canada. Et là, il a continué à parler de gastronomie française, il est revenu, il a pu revenir ensuite, pour écrire ce livre, qui est considéré pour tous comme le livre gastronomique de la culture française. Et j'ai bien envie de lire du coup le livre en entier pour savoir tout le reste, parce que c'est vraiment vraiment intéressant et drôle. Donc il nous parle.
Tu as pas un extrait à nous lire pour qu'on se rende compte de la langue, parce que
allez, je vais
c'est vrai que c'est une belle écriture en fait.
Je vais te dire un extrait. Qu'est-ce que je pourrais te lire, parce qu'après il y a des passages philosophiques sur le poisson. Ça va quand même assez loin, quoi. Il faudrait que je te lise. Il y en a tellement.
Tu veux qu'on mette une musique d'ascenseur pendant que tu.
Non, après, non. Si, vas-y. Tu peux me la chanter ?
Oui, tiens. Attends, je te mets un petit extrait, Maïté.
Lorsqu'on a l'ortolan dans la bouche, parce qu'on a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche, et puis derrière la serviette.
Merci.
On peut se concentrer.
Allez, on va lire un passage un peu historique pour pas partir dans les anecdotes ni la philosophie de l'auteur. Le dindon est certainement un des plus beaux cadeaux que le nouveau monde ait fait à l'ancien. Ceux qui veulent toujours en savoir plus que les autres ont dit que le dindon était connu aux Romains, qu'il en fut servi aux noces de Charlemagne, et qu'ainsi c'est mal à propos qu'on attribue aux jésuites l'honneur de cette savoureuse importation. À ces paradoxes, on pourrait n'opposer que deux choses. Le nom de l'oiseau qui atteste son origine, car autrefois l'Amérique était désignée sous le nom d'Inde occidentale. La figure du coq d'Inde qui est évidemment tout étrangère. Un savant ne pourrait pas s'y tromper. Mais, quoique déjà bien persuadé, j'ai fait à ce sujet des recherches assez étendues dont je fais grâce aux lecteurs et qui m'ont donné pour résultat que le dindon est apparu en Europe vers la fin du XVIIe siècle, qu'il a été importé par les jésuites qui en élevaient une grande quantité, spécialement dans une ferme qu'ils possédaient aux environs de Bourges, que c'est de là qu'ils se sont répandus peu à peu sur la surface de la France. C'est ce qui fait qu'en beaucoup d'endroits et dans le langage familier, on disait autrement et on dit encore un jésuite pour désigner un dindon. Voilà. Vous c'est ne saviez pas ça.
Non, mais c'est concis et c'est tout à fait instructif.
Voilà, et donc après, il parle des restaurateurs qui sont apparus parce que les restaurants n'existaient pas vraiment à cette époque-là. Et donc, ils faisaient venir du dindon, qui faisaient venir avec la truffe. Mais la truffe, on n'en trouve que dans 3 restaurants à Paris. Alors, il les cite. Après, ça s'est démocratisé. Donc, il revient sur la démocratisation de la truffe, sur son côté sensuel et érotique. Enfin, ça va très loin et c'est toujours assez clair, concis et c'est très, très intéressant.
Et le dindon de la farce ?
Je ne sais pas, il n'en parle pas, ça a dû arriver après ce proverbe.
Je pense que c'est une expression plus récente. Ouais.
C'est arrivé lors du film La 7e Compagnie, donc ce pauvre personnage était décédé. Alors donc là, c'est un tout petit livre chez éditeur de gastronomie, Menu Frétin. Voilà, Kawa, petite tasse de café littéraire. Popo.
Bah super, de café littéraire, parce et moi je vais vous parler de café.
C'est pour ça que je fais ma parole. En plus, Valérie est en train de sécher son livre, où elle a malencontreusement fait tomber de l'absinthe dessus.
Et attends, va enlever le verre comme ça sur du blanc. Donc moi je vais vous parler d'une petite série de bouquins, en fait c'est 5 petits livres, qui s'appellent en titre général Caféine. C'est édité par les éditions du MUCEM avec Actes Sud, et c'est un ouvrage collectif, là pour le coup ultra collectif. Donc je vois le terroir comme un lieu d'habitude, un lieu de goût, voilà des choses rassemblées autour d'un lieu. Pour le coup, le café, c'est ce qui me semble plus éloigné du terroir finalement. Alors il y a des cafés de terroir, hein. Il y en a notamment un dont il parle dans mon bouquin. Je pense qu'on le trouve à peu d'endroits où les grains de café sont prédigérés par des animaux.
Un éléphant, non ?
Alors là,
ou
c'est.
Des singes.
Alors là, j'avais animaux. Donc,
ouais. C'est animal de Maïté.
Non, non, mais j'en avais entendu parler de oui, ça. Non, non, c'est de la bière prémâchée par un éléphant, peut-être.
Non.
Moi, j'avais le café et les singes.
Ouais, tu vois, bon, moi, j'ai la bière et les éléphants.
Donc voilà, terroir, spécialité. Mais bon, il y a quand même voilà, des particularités dans le café. Mais dans la mesure où 2 personnes sur 3 dans le monde boit du café et qu'on a soit l'Arabica, soit le Robusta. Bon, après, on a différentes espèces, on va dire. Mais voilà, on boit plus ou moins tous quasiment la même chose. Les spécialistes vont me haïr, mais...
Non, mais voilà. C'est vrai qu'à grande échelle, effectivement, tout le monde boit à peu près la même chose.
Oui.
Ce qui n'empêche que le café peut être un produit du terroir
oui.
dans certaines parties du monde, j'imagine. Oh,
mais bon, là, c'est pas... Voilà, on a beau être dans une émission terroir, c'est pas vraiment le sujet de mon bouquin. Donc peut-être... mais j'ai envie d'en parler
Désolée.
Quand même, parce que c'était très chouette.
Déjà, la dernière fois, on nous a parlé d'Australien, d'un livre australien pour Pearl Harbor numéro
2. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
À côté de la plaque, je te propose. Hein
Bref, on est aux éditions du Mucem, donc entre fin 2016 et début 2017, ils ont fait une exposition évidemment sur le café, d'où ont été tirés ces bouquins. Donc l'ambition, c'était de retracer l'histoire du café dans le monde, mais quand on dit l'histoire, c'est l'histoire pure, l'évolution du café, de la consommation, du commerce, le café dans la littérature, les traités autour du café, l'économie du café, tout, absolument tout.
Enfin,
c'est
café.
L'impression que oui.
Pardon.
Est-ce qu'il parle du fameux café-rhum que je fais?
Ah, non. Pas du tout, mais c'est un oubli. Oui, ils ont été un peu tête en l'air là-dessus.
Il a détrôné sur le carreau le thé-rhum.
Voilà, ouais. C'est ça.
Et ouais. Du coup, c'est très chouette parce qu'on a. Donc 5 petits livres, tout à fait différents. Donc il y en a un, c'est l'imaginaire littéraire autour du café. Donc c'est différents auteurs. Moi, je connaissais Douglas Kennedy. Il y en a quelques autres voilà, qui écrivent autour du café. On a l'économie du café, des recettes autour du café. Et alors, on a mon préféré, c'est le café du docteur Le Play. Alors là, c'est un facsimilé d'un traité autour du café. Sur les effets du café sur la santé, le corps et l'esprit. Donc on est en 1877, c'est une médecine qui est pas celle d'aujourd'hui. Et c'était absolument génial. Si voilà, dans ces 5 livres, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu. Et donc si vous lisez ce bouquin, ces bouquins d'ailleurs, vous allez avoir l'impression que quand vous buvez du café, vous êtes plus juste le buveur de café comme tout le monde, comme on est tous finalement, ou la plupart des gens. Mais vous êtes celui qui boit du café, mais qui sait un peu ce qu'il boit, qui sait d'où ça vient et tout ça. Donc c'est un peu classe,
puis
c'est
en
chouette.
Famille, tu vois, avec tous les gens du terroir avec nous.
Voilà.
T'attends la fin du repas pour sortir l'anecdote. Vous savez que le café...
Exactement.
Mais ça fait pas rêver quand même au départ quand tu dis 5 tomes, même s'ils sont petits, sur le café. Au final, tu l'as lu facilement,
ouais.
Tu as eu envie de... C'est intéressant.
Chaque petit tome va très vite et il y a pas mal d'informations, mais c'est pas blablabla à fond.
C'est
on
pas
est
une
pas...
encyclopédie. Quoi.
Non,
voilà,
non. C'est voilà, c'est une base de choses à connaître sur le café qui sont... tout intéressante et en plus voilà c'est surtout ce qui est très chouette c'est que les thèmes des 5 livres sont très différents, c'est pas répétitif, on va pas relire 15 fois la même chose, donc c'est assez sympa et le format est agréable parce que voilà des tout petits livres comme ça
c'est des beaux livres oui.
Mais ouais. C'est un beau petit objet pour quelqu'un voilà qui aime le café
oui.
Ou qui en boit trop, ça peut être une blague aussi de voilà lui offrir ça quoi.
Donc très sympa, très bonne découverte, même si on n'est pas dans le terroir, je voulais quand même en parler
bon,
parce que c'était très chouette.
On est sur un produit quand même.
Ouais, voilà, là on est sur un produit, ouais.
Voilà.
Très très bien.
Tout à fait Actes Sud, hein, cette présentation de livre
oui.
Dans ce petit coffret, plein de couleurs.
Ouais, très chouette.
Merci Popo. Allez, on va parler du livre de Valérie
qui est un peu
mouillé.
Un peu imbibé, hélas, mais c'est pas grave. J'irai au bout de mes...
Rêves.
Non, fèves.
Ah
qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mais qui recherches-tu?
Oui. Non, tu peux dire quelque chose, on doit dire la suite, parce que sinon tu joues tout seul. Tu vois.
C'est vrai. Ouais, non, Mr. Munster. Ouais, c'est parce que c'est mélangé. En fait, c'est plein de petits... ce livre que j'ai dans la même... Je ne saurais pas si...
Que tu vas adorer, que tu vas garder maintenant.
Que je l'ai gardé, du coup.
Pibé de
rein.
Par contre, si vous voulez, je peux le signer et vous pouvez le chercher à la librairie.
On va tous le signer.
Ce sera un livre dédicacé de l'équipe de 48 FM de Par le bout de la lorgnette.
Ouais, c'est bon ça.
En plus, il a un peu de gras maintenant sur la couverture.
Et on va en rajouter encore plus.
Je ne sais pas où Héloïse doit le ranger dans sa librairie parce que tu peux le mettre dans le rayon des recettes de cuisine. Tu peux le mettre dans le roman. Tu peux le mettre dans les documentaires. En fait, ce petit livre, il va partout. C'est un livre de Jackie Durand. Alors, pas mon voisin de Montméja, mais Jackie Durand, c'est un auteur, un journaliste de Libération qui a écrit déjà plusieurs livres sur un lien avec la gastronomie et le terroir. Et celui-là, en fait, il raconte en fait que la gastronomie, c'est un peu de l'amour parce que la première fois où tu as envie qu'une histoire d'amour dure, la personne, quand elle va partir parce qu'elle rentre chez elle, jusqu'au dernier moment, tu vas aller partager un jambon beurre avec sur le quai du train. Enfin, voilà. Et à partir de là, tu sais pas pourquoi il te dit ça et bim, tu pars en voyage avec lui. Alors, il se promène, on va de ville en ville, enfin de terroir en terroir. On va aller manger de la nonnette, une histoire de culte. On va aller faire asperges, la botte secrète, l'absinthe honorée. On va aller faire ossobuco de Minjaret. On va aller faire donc brandade à toi, champignon farci, champignon par là, do ré mi fa sol, la gigot. Un bleu qui a du Vercors, le Dijon et sa blonde. Et c'est plein, en fait, de petits chapitres où il va aller dans un terroir, rencontrer des gens qui ont un lien avec ce terroir, raconter une petite histoire.
Il fait des jeux de mots avec eux aussi ?
Non, les calembours, c'est que sur les titres.
C'est
donc
que sur
tu
les
peux
titres.
Le lire.
D'accord,
c'est pas
voilà.
Plus mal,
il faut voilà. Le préciser parce que...
Ouais, ben, Réfort, la racine qui montonnait. Donc, il y a à chaque fois le titre, il est assez marrant. Enfin, moi, ça me fait rire, j'aime bien les calembours, donc je suis bon public. Et... il va te raconter une petite histoire, puis à la fin de l'histoire, pouf, sans la virgule, sans le deux points, ouvrez les guillemets, il y a la recette de cuisine qui va aller avec l'histoire qu'il raconte. C'est excellent. C'est court, parce que chaque fois, je suis sur Céleri Rave Party. Il va raconter comment, avec sa copine Daniel, ils allaient tous les samedis matins acheter leurs fruits et légumes sur le marché. Et puis ce jour-là, elle ramène un céleri. Grande discussion, arrivée à la maison devant cet ovni, parce que ça a une forme bizarre quand même, un céleri, une fois que c'est un peu nettoyé. Voilà, et puis là, ils discutent sur « Mais toi, t'as jamais forcé tes gosses à manger ?»« Si, moi aussi, et toi, pareil, silence. » Allez, on va aller chercher ça. Et bam, ils enchaînent avec la recette d'un céleri venu d'ailleurs.
Il y a beaucoup de recettes parce que c'est un gros livre quand même.
Il y en a plein. Enfin, beaucoup de recettes, non, parce qu'il y a deux ou trois fois où c'est qu'il n'y a pas de recette. Je crois que c'est sur l'absinthe d'ailleurs. Sur le chapitre sur l'absinthe, il n'y a pas de recette.
Jackie, il aurait dû appeler Popo, elle lui aurait donné.
Je ne sais pas, il y en a énormément. Il doit y en avoir une cinquantaine. Non, pas tant quand même. Ouais, peut-être 40.
Est-ce que tu as eu envie de refaire des recettes du
Ouais. Et alors en plus.
Et est-ce que tu en as fait ?
Alors pas encore, non, parce que c'est le dernier que j'ai lu des trois qu'Héloïse nous avait passé. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a pas mal de. Alors, soit c'est des recettes, il dit voilà, je l'ai tiré de tel livre, et notamment, comment s'appelle le super livre là, que tu m'as vendu Fédon ? Non.
Chez Fédon, oui. Bible de la cuisine grecque.
Il y a pas mal de livres qui viennent de chez Fédon.
Bible de la cuisine grecque ?
Oui, je te le passerai.
Ah, j'adore.
Et il y a pas mal de livres de chez Fédon. Il cite en fait, soit dans sa recette, il va dire cette recette, je l'ai tirée de tel livre, soit il va, dans son histoire, dire j'ai été ramasser des champignons, ça m'a rappelé. Tel livre de cuisine, et chaque fois c'est référencé, il te dit qui c'est, quel livre c'est. Du coup, non seulement tu as envie d'aller visiter ce terroir-là, parce qu'il te donne envie d'aller ramasser les champignons avec le gars en question, tu as envie de voir le livre de cuisine dont il te parle, et tu as aussi envie d'essayer la recette de cuisine qui est écrite à la fin. Donc c'est pas de la grande littérature, c'est pas comme ton dindon où c'est des jolis mots avec des jolies phrases. Là c'est du phrasé comme on discute nous autour de notre verre d'absinthe qui est tombé sur le livre. Mais ça se lit bien et
Ça a l'air convivial, ça a l'air chaleureux en fait.
C'est vraiment sympa. Puis les recettes sont assez classiques puisque c'est que avec des produits du terroir le renouveau du Navarin.
C'est que français, terroir français, ouais.
Mais Kirchetu, Pastembock d'abord, c'est vraiment que du terroir. Voilà. J'ai découvert ce qu'était le Potjevlech.
C'est quoi ?
Bah écoute, c'est une recette de Lille là-haut, enfin du 59, qui donne envie de monter là-haut. Voilà, avec du poulet, du porc, de la blanquette de veau, de la gélatine, du vin rouge. C'est une espèce de
tout ça dans la même chose,
ouais,
dans
ouais,
le même plat.
De, t'as l'impression que ça flotte au milieu de la gélatine, toute cette viande. Alors là, chaque végane qui ouvre ce livre se suicide. Hein. Autant le dire tout de suite.
Non mais enfin,
nous n'avons pas de végane qui écoute cette émission.
C'est vrai qu'en super. Ce moment, quand je regarde les publications de cuisine, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de livres de cuisine vegan. Et je pense que ça concerne encore qu'une petite partie de la population. Mmh. Et du coup, on peut manger végétarien, effectivement, on peut manger, mais sans avoir... moi, je suis assommée par toutes ces publications vegan. Voilà.
Mmh. Et oui, ouais. Ils n'ont jamais goûté le saucisson losérien, les vegans.
Mais nous resterons...
Ils ne seraient jamais devenus vegan.
Nous resterons pastrami pour la vie.
Merci Valérie, finissons sur cette belle note. Voilà.
Tu veux pas savoir d'où il vient mon livre ?
Mais bien sûr, je veux savoir.
Voilà, il vient de chez Carnet Nord et c'est Jackie Durand, Voyage amoureux dans la cuisine des terroirs. À mettre dans vos placards.
Parfait, donc Pauline, tu n'as plus de livre, il vous reste toutes les deux un seul livre de une minute à dire. C'est 25, donc je vais parler du mien qui est un peu plus long, mais pas trop, hein. Bière, légende des recettes mutatis mutandis, brassage de Jean-Paul Romac.
Est-ce que tu as mis ta barbe et ton collier de fleurs ?
C'est exactement ça. Alors voilà, c'est ce que je disais, Loïc. C'est dans la préface, t'as tout compris. C'est Jean-Paul Romac, donc l'auteur, qui appelle un brasseur de bière qu'il ne connaît pas, en lui disant voilà, je dois créer de la bière pour le musée celte de je ne sais pas où en Moselle. Est-ce que je peux venir pendant 3 mois faire des essais chez toi ? Il accueille et là, il voit quelqu'un qui arrive avec une longue barbe, de longs cheveux, le druide, qui reste chez lui. Et donc ce livre, c'est une encyclopédie de la bière où il nous raconte comment faire la bière, comment faire la bière la cerveza gauloise de l'époque, comment faire une bière ambrée de l'époque, comment faire, etc. Donc il y a 35 recettes de bière.
Des recettes historiques, que des recettes historiques.
Non, après il y a de la bière actuelle aussi. D'accord. Il nous explique les différences de bière entre ambrée, brune, rousse, tout ça. 35 recettes de bière, une centaine de recettes de cuisine, des passages sur les faits, sur Adam et Ève, ça va un peu dans tous les sens, lié à la bière et lié à la personnalité de Jean-Paul Romac, qui a l'air fort sympathique, par ailleurs, avec ce livre. C'est un livre de l'ami des Gaulois, du néolithique. Bref, il est fou, ce Jean-Paul. Voilà, c'est aux éditions Lecture Nourricière. C'est intéressant, mais voilà, c'est
mais
une encyclopédie.
Coup, le rapport entre Adam et Ève et la bière.
Mais en fait, il raconte l'histoire de la bière, donc ça commence par Adam et Ève. Alors,
mais
je vais te le lire de suite. Parce que Adam
c'est
et Ève.
C'est un péché de boire de l'alcool.
Non.
La première gourmande, moi je l'ai eu dans mon bouquin, la première gourmande.
Adam et Ève sont nés environ en 5000 avant notre ère. Ils sont contemporains du néolithique, c'est-à-dire du début de l'agriculture, de l'élevage et des premières bières. PS, voir Satan. Parce que. Tu peux aller au S où il parle de Satan. Et alors, je ne l'ai pas lu, Satan. Tiens, le S,
j'avais envie de vous poser une autre question. Est-ce que les recettes sont abordables ? Parce qu'a priori, on ne se dit pas, tiens, je vais faire de la bière ce
non,
soir.
Non, c'est
quoi.
Extrêmement compliqué.
Ouais,
parce qu'il explique, ça paraît simple pour lui, mais voilà, déjà, t'as pas les instruments, donc tu te dis, il faut que cette eau soit à 65 degrés, après à 75, après t'as misé dans ça, après faire ceci, cela. Ou si t'as vraiment envie, tu peux y arriver, hein. Satan et ses œuvres. Adam et Ève auraient-ils volontairement inventé le travail ? Certainement pas, ils vivaient heureux de chasse et de cueillette. Mais une dispute de œdipienne avec le père est venue troubler le bel ordre établi par l'Œdipère. Tout s'est passé, etc. Dans le néolithique. Voilà. C'est qui l'Œdipère de Adam et Ève ?
C'est Dieu.
N'inquiétez pas.
Voilà, Valérie va réviser ses cours de catéchisme, mais avant, elle va nous présenter un livre en une minute.
Oui, maman. Alors, c'est pas que le livre ne soit pas bien du tout, c'est que j'ai du mal à vraiment le mettre dans le terroir. Alors, peut-être parce que je suis trop bleu, blanc, rouge, cocorico, mais j'ai adoré le livre.
Tu fais ta popo.
Donc, je suis... Voilà, exactement.
Je fais ma popo, mais si j'ai
mais
un
ça, livre. Mais oui.
Popo faut, un jour, popo toujours.
C'est ça.
Écoute, voilà, donc c'est le livre, l'auteur c'est Kim Thuy, elle est donc de Saïgon. Et là, elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Man. C'est une jeune fille dont la mère était donc à Saïgon. Elle a marié sa fille avec un restaurateur de Montréal pour pouvoir la faire partir, quitter le pays et qu'elle ait une bonne condition. C'est une jeune fille qui est très, très réservée, Man. Qui est assez introvertie et qui, par contre, lorsqu'elle va cuisiner, se mettre à cuisiner, ben, va complètement se révéler et va éveiller chez les gens énormément de choses. Donc, ça raconte l'histoire donc, d'amour entre fille et mère, entre femme et mari, mais aussi la difficulté d'être une femme, j'allais dire, ouais, immigrée dans un pays qui n'a pas forcément les mêmes mœurs. C'est très beau. J'ai qu'une minute, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais la nourriture a quand même fait, c'est un peu le fil rouge parce que c'est grâce à la nourriture qu'elle va se dévoiler et qu'elle va pouvoir enfin vivre avec un grand V puisqu'elle vivait dans l'ombre de sa mère, dans l'ombre de son mari et qu'elle va enfin s'épanouir. Donc c'est un très beau livre, c'est aux éditions de Liana Lévy, donc Piccolo.
Édition gourmande.
Et c'est je sais pas comment on dit, Héloïse, dans les
collections.
La collection Piccolo, voilà, édition gourmande, et ça veut dire qu'il y a des recettes à l'intérieur.
À la fin, ouais, il y a quelques recettes, hein, le gâteau à la banane, le ragoût de bœuf citronnelle et de salade d'aïkong. Il y a pas mal de choses qui sont en plus tout à fait réalisables et avec des produits qu'on arrive à trouver facilement en plus.
Et donc c'est dans le thème.
Ouais, mais
produits du terroir.
Si tu veux, oui, mais c'est dans le thème, mais si tu veux, le livre en lui-même, c'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment une
belle histoire. Ah, parce que ça peut pas être des belles histoires quand c'est dans le produit du terroir.
Si, mais là, on était plus sur mes autres livres, on était plus sur le terroir.
Tu vois. Ton accent laisse un peu à désirer. Je veux pas dire, mais c'est limite. Bon, je m'arrête là.
Voilà.
Ok, merci Valérie.
C'est un très beau livre, ceci.
Il faut que tu arrêtes de regarder des vidéos de Maïté. Hein. C'est pas possible.
Cette vidéo est extraordinaire. On la mettra en lien.
Ouh là là. Non. Héloïse, allez, finissons.
Oui, moi, une seconde, 30 secondes. Donc, c'est les éditions Ouest France qui font des atlas comme des atlas routiers que vous avez dans votre voiture si vous n'avez pas encore de GPS.
Ou pas de voiture.
Moi, je suis pour le bon atlas papier. Voilà. Et donc, ils font des atlas gourmands. Et donc, là, il y a l'atlas des fromages de France et l'atlas aussi des vignobles. Donc, c'est-à-dire que quand on est en vacances, dans un coin de France, et ben, on ouvre la page de là où on est et on regarde quels sont les fromages à goûter, quelles sont les fermes à visiter.
Excellent.
Donc, c'est vraiment pas mal pour les voyageurs gourmands. Ça peut changer et ça peut donner lieu à de belles découvertes. Voilà tout ce que j'avais à dire.
Il y a même un tuto pour savoir comment couper le fromage et éviter de se faire foutre dehors si jamais tu es chez un producteur de fromage et que tu coupes mal le fromage quand il t'invite à sa table.
Merci, que tu achètes Valérie. Le mauvais roquefort.
Exactement.
Génial. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, si Aimé nous écoute, il peut nous envoyer du vrai fromage parce que le papillon en a marre dans cette émission. Merci. Allez, on se quitte avec Valérie ou avec quelqu'un d'autre ?
Se régaler, apprécier, déguster, vraiment voir ce qu'on a dans la bouche, c'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent et on va en profiter au maximum.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, il y en a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.